Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi, c'est arrivé aujourd'hui.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
Allez, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire de Disneyland Paris qui a ouvert ses portes un 12 avril. C'était en 1992. François Vantôme nous replonge dans ce monde merveilleux qui a largement contribué, eh bien, au bonheur de millions de petits et de grands, mais aussi changé la dynamique du tourisme économique de la région.
Tout a commencé dans les années 80 lorsque le géant du divertissement Disney a décidé d'étendre son empire en Europe. L'idée de créer un parc à thème en France est née de la réussite de Disneyland en Californie et de Walt Disney World en Floride. Après plusieurs études, la France a été choisie pour sa position centrale en Europe, son riche patrimoine culturel et son attractivité. Aujourd'hui, il existe 6 complexes Disneyland dans le monde. Disneyland en Californie, Walt Disney World en Floride, Tokyo Disneyland, Hong Kong Disneyland, Shanghai Disneyland et Disneyland Paris. Chaque parc a son propre caractère et ses attractions uniques, mais tous partagent la magie et le savoir-faire de Disney. Disneyland Paris a été officiellement inauguré le 12 avril 1992 sous le nom initial de Euro Disneyland.
Et maintenant, je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert.
Les débuts de Disneyland Paris furent tumultueux. Malgré l'attente immense et des investissements considérables, le parc a rencontré des difficultés financières dans ses premières années. Les visiteurs, bien que nombreux, étaient souvent moins nombreux que prévu et le mauvais temps ainsi que des problèmes de marketing ont contribué à sa situation délicate. Cependant, avec des efforts de restructuration et d'amélioration de l'expérience des visiteurs, le parc a progressivement gagné en popularité. Au fil des ans, Disneyland Paris a évolué. Des atouts majeurs comme le Disney Village et le Walt Disney Studio Park ont été inaugurés en 2002. En 2014, le parc a été rebaptisé Disneyland Paris, prenant en compte l'expérience européenne. Ces changements ont été essentiels pour attirer un public plus large. En 2017, dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de Disneyland Paris, l'attraction mythique Star Tour s'est vue totalement repensée pour transporter les invités aux quatre coins de la galaxie. Aujourd'hui, Disneyland Paris est non seulement le parc d'attractions le plus visité en Europe, mais il est également une destination de choix pour les familles du monde entier. En 2019, avant la pandémie, le parc a attiré plus de 15 millions de visiteurs. La situation a été durement impactée par la Covid-19, mais depuis sa réouverture en 2021, Disneyland Paris a recommencé à attirer les foules avec de nombreux atouts et de nouvelles expériences pour continuer à divertir les petits et grands. Vous l'aurez compris, malgré ses débuts difficiles, l'impact de Disneyland Paris sur le tourisme en France et en Europe et sur le développement économique de la région est considérable. Avec ses 59 attractions et 7 hôtels, Disneyland Paris est la première destination touristique en Europe. En 30 ans, le parc a accueilli près de 375 millions de visiteurs au sein de son resort, hôtel, parc, restaurant. Plus de la moitié étaient étrangers. Disneyland Paris a également entraîné un développement économique dans la région qui a stimulé les entreprises locales et le secteur hôtelier. sans oublier les cast members. Disneyland Paris emploie en effet 16 000 salariés, ce qui fait du parc l'un des plus gros établissements de France. Enfin, pour terminer, depuis son ouverture en 1992, le parc a réalisé 9,1 milliards d'euros d'investissement au total. L'immense complexe de loisirs se félicite d'avoir généré 6% des recettes touristiques de la France en 30 ans et d'avoir contribué à hauteur de 84,5 milliards d'euros à l'économie française. Avec les célèbres attractions comme Pirates des Caraïbes, La Maison Hantée, Ratatouille, Le Monde Magique de Peter Pan, Disneyland Paris va sans aucun doute continuer de captiver les cœurs et d'attirer des millions d'amateurs de sensations fortes et de magie. Pour le plaisir, le refrain bien célèbre « It's a small world » qui, j'en suis sûr, va vous accompagner toute la journée.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Il a plu dans la chambre. Est-ce que c'était mes larmes ou juste un bout de toi qui part? Je crois que j'ai les mains qui tremblent. Je cherche un peu la flamme. Est-ce qu'il reste nous quelque part? Mais quand tu me regardes, je baisse un peu la
Et c'était La Pluie, la chanson de Louane qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois d'avril. Allez, courte pause en ce samedi, on se retrouve dans quelques instants avec le reste de notre programme. Europa Voice numéro 162. Et comme à l'accoutumée, je suis bien entendu avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Bon, il se passait beaucoup de choses sur la scène internationale, sur la scène européenne, sur la scène australienne. On va parler un peu de tout ça au niveau politique. Mais bien entendu, on ne peut pas tourner du regard sur ce qui s'est passé cette semaine avec la fameuse annonce des tarifs de Donald Trump. Il était beau avec son petit tableau et ses pourcentages, etc. etc. Au-delà de la rigolade, c'est un moment qui est ultra sérieux pour l'économie mondiale parce que c'est une espèce de chamboulement, de claque qui a été mise sur l'ordre établi depuis des décennies, hein, on peut en parler. Ça change quoi, cette annonce de Donald Trump et d'annonce américaine par rapport aux tarifs?
Alors, je trouve qu'il y a deux aspects, Christophe, à cette question. Il y a d'abord l'aspect, effectivement, des conséquences que ces tarifs vont avoir, ces droits de douane vont avoir sur les économies mondiales, sur les relations entre les économies mondiales et les premières déjà répercussions qu'il y a eu, notamment sur les cours de bourse, etc. Ça, c'est le premier élément et on va sûrement en discuter. Mais pour rebondir sur votre question, il y a aussi un aspect historique, vraiment politique. C'est-à-dire que ça ne chamboule pas simplement l'ordre économique mondial, ça chamboule l'ordre établi. C'est-à-dire que ça chamboule le rapport que les démocraties libérales avaient construites entre elles ces 60-70 dernières années. Et c'est d'une certaine façon, en une démonstration avec effectivement un tableau à double colonne, que Trump a complètement fait table rase de cet ordre établi et de, j'allais dire, ces relations, encore une fois, entre démocraties libérales d'abord, mais aussi même entre les pays du monde entier. C'est remettre en fait sur la table la question du commerce et de la bonne entente entre pays dans le monde. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit les différentes analyses sur ce que Trump a fait, c'est compliqué de dire à quel moment de l'histoire ça fait référence.
Ouais.
Parce que c'est tellement gros, c'est tellement inattendu que c'est aussi une première fois. Et donc, on en tire aussi des conséquences un petit peu sur le moment.
Il y aura un avant et un après. C'est sûr, même si on revient à des relations normales, entre guillemets normales à ce point de vue-là, il y aura un avant et un après tarif américain. C'est ne serait-ce que dans l'attitude, ne serait-ce que dans la façon dont ça a été fait, de fait que le coup de théâtre que ça a été, même si on savait que ça allait arriver, il avait annoncé ce Liberation Day, on savait qu'il était là, il était dans le calendrier, mais je pense que l'onde de choc en elle-même restera aussi, puisque ça, comme vous le dites, ça change les choses.
Effectivement, alors déjà, ce Liberation Day, il est intéressant parce que Trump, en fait, ce qu'il dit, le discours, le narratif, là, si on prend la casquette de communicant, ce que Trump raconte, c'est en fait rétablir une relation qui tournait au désavantage des États-Unis, c'est ses mots à lui, hein, c'est son interprétation, ces dernières années. Donc, pour Trump, c'est pas tellement une punition, c'est juste revenir à l'ordre normal des choses et en fait d'arrêter que les États-Unis soient le porte-monnaie en fait des économies mondiales. Et donc, derrière ça, ce qu'il y a aussi comme discours, c'est le America
first.
Encore le America first de Trump. On pensait que ça c'était peut-être un peu passé après son premier mandat, mais en fait, pas du tout. C'est le America first. C'est on va d'abord donner priorité, préférence aux entreprises, aux citoyens américains, mais surtout, on va réparer ce qui s'est passé ces dernières décennies, pour que l'Amérique ne pâtisse plus du commerce mondial et de balance déficitaire, etc. Donc, c'est le America first de Trump et c'est une sorte de réparation à destination des citoyens et des entreprises américaines.
Alors, sans rentrer dans le détail de chaque pays, parce que c'est ultra complexe, et tous les pays, même, ça a été largement commenté, hein, des endroits où il n'y a que des pingouins qui ont été taxés et des tarifs ont été mis, mais donc encore une fois, sans rentrer dans le détail, ça veut dire quoi pour l'Europe, ça? Parce qu'il y a un taux sur l'Europe, sur l'Union européenne. Bon, les Britanniques n'ont pas le même, mais au sein de l'Union européenne, c'est tous le même pour tout le monde. C'est quoi l'attitude européenne? Parce qu'il y a là aujourd'hui, où on enregistre, au moment où on enregistre, on n'a rien, on ne sait rien de la réplique européenne, on ne sait même pas s'il y aura une réplique européenne. Et là, en partant de là, ça veut dire quoi pour l'Europe si on analyse la stabilité politique et économique au sein de l'UE?
Alors, il y a déjà eu des réactions d'Ursula von der Leyen, de la présidente de la Commission européenne, qui, d'une certaine manière, a voulu globaliser le débat. C'est-à-dire que pour von der Leyen, et elle a raison, hein, ces droits de douane, ça porte un coup pas seulement à l'économie européenne, ça porte un coup à l'économie mondiale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que von der Leyen a pour une fois une position assez, j'allais dire, offensive. C'est-à-dire qu'une des premières déclarations de la présidente de la Commission, c'est de dire que l'Europe mettait déjà la dernière main, son premier train de mesure, là je la cite, en réponse au premier droit de douane sur l'acier, et qu'elle préparait, donc là l'Europe, d'autres contre-mesures en cas d'échec de futures négociations. C'est-à-dire que von der Leyen, elle est déjà dans l'après-tarif douanier de Trump. Pour l'instant, et c'est assez rare pour le souligner, on avait eu ça pendant le Covid, on a eu ça à certains moments pendant les premiers mois de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la position européenne est plutôt alignée. L'Europe paraît plutôt unie. Et dans son discours, parce que l'idée, encore une fois, c'est pas de transformer la guerre commerciale de Trump en une guerre plus importante. Et l'Union européenne, par la voix de sa commissaire, de son porte-parole, a déjà dit qu'elle continuera à jeter des ponts avec tous ceux, et je cite encore une fois, qui, comme nous, tiennent à ce que le commerce équitable et fondé sur des règles de droit soit la base de la prospérité. Donc, voilà. On va réagir. Il y aura un paquet de mesures pour pallier ces nouvelles lois américaines. Mais en tout cas, on va continuer à faire qu'il y ait encore un commerce équitable et que ça se fonde sur des règles de droit, de bonne entente entre démocraties, etc.
Est-ce que dans tout ça, il y aurait potentiellement une opportunité aussi, on va penser positivement, pour l'Europe de changer, de se développer? Est-ce que ce coup de balai ou cette gifle qui a été mise à plusieurs économies mondiales, donc notamment l'économie européenne, est-ce qu'aujourd'hui l'Europe serait plus grande de s'en sortir et de s'émanciper un peu? Tout ça, je pense à peut-être avoir une idée d'utiliser l'euro comme réserve de valeur, de monnaie de valeur, contrairement aux États-Unis. Est-ce que c'est des choses, on peut se permettre d'y réfléchir en Europe? On peut aussi vouloir s'émanciper et de grandir? Est-ce que c'est l'adolescence européenne?
Alors, always look at the bright side of life. Le premier élément pour paraphraser ces comiques.
Les Monty Python.
Exactement. Le premier élément, c'est que, indirectement ou directement d'ailleurs, l'Union européenne et le Royaume-Uni se rapprochent de nouveau.
Oui.
Keir Starmer.
Même si les Britanniques sont quand même contents d'avoir des taxes qui à 10% et non pas à 20%.
Ils sont contents, mais ensemble, ils ont admis que ces tarifs douaniers ne sont. N'ont davantage pour personne. Et on n'a jamais vu quand même autant de coopération, que ce soit sur le dossier ukrainien, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, encore une fois, toujours voir le côté positif, ça permet quand même au Royaume-Uni et à l'Union européenne, parce qu'il y a plein de raisons qu'ils le fassent, de se rapprocher. Le deuxième élément sur la maturité de l'Union européenne, là, je vais renvoyer nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS à ce qu'on se disait sur l'Union européenne de la défense.
Oui. Et la relation avec l'Ukraine et la Russie.
Exactement. C'est peut-être quand l'Union européenne est au pied du mur.
Qu'elle voit mieux le mur. Non, mais.
En tout cas, qu'elle se rend compte qu'elle doit avoir des politiques indépendantes et ne plus dépendre du parapluie américain. Ça l'est vrai pour la défense avec le désinvestissement total et le désengagement des États-Unis de l'Alliance Atlantique. Ça devient maintenant aussi vrai avec ces questions commerciales. Donc d'une certaine façon, c'est aussi une opportunité. Moi, je veux toujours voir de ces risques-là, les opportunités que ça crée. C'est une opportunité pour l'Union européenne aussi, voilà, de défendre son modèle économique d'exportation. Et puis, à l'échelle mondiale, c'est toujours bien de pas non plus toujours avoir les œufs dans le même panier. Donc ça va permettre aussi à l'Union européenne de se diversifier dans les investissements. Après, ce qui est évident, c'est que le marché américain et ses droits de douane et ses 10% sur les produits importés aux États-Unis, forcément, ça aura des conséquences sur l'économie européenne. Mais encore une fois, le rapprochement avec la Grande-Bretagne, l'unité de l'Europe sur ses réactions aux tarifs douaniers et puis la perspective justement de diversifier son économie, ses échanges commerciaux, voilà, à voir si l'Europe va pouvoir bénéficier et tirer profit de cette situation-là.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
J'en ai marre de rêver de vous, Jean. J'en ai marre de parler de vous, Jean. J'en peux plus de ne penser qu'à vous, Jean. On est connu des plus forts que vous, Jean. On est connu des plus beaux que vous, Jean. On est connu, mais il n'était pas vous. Votre rire d'argent qui sentit idyllique et changeant. Et oui, Jean.
C'était Jean de Jeanne Chéral. Jeanne Chéral qui revient avec un très très bel album et cette chanson Jean qui fait partie de notre sélection musicale en ce mois d'avril. Allez, courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Bon, ici, on est avec Sébastien Tellier. Sébastien Tellier qu'on connaît bien d'ailleurs sur SBS Chill avec sa chanson Larry Tournel. Je disais hors micro, je peux pas la retirer de la playlist, c'est impossible. Sébastien, merci de nous accueillir, en tout cas, de venir sur SBS.
Oui, bah, c'est mon plaisir, bien évidemment. Je suis très content de venir parler à la radio australienne. Pour moi, c'est exotique, c'est lointain, c'est formidable.
Ouais, c'est ça l'Australie. ce travail que vous faites en ce moment, vous êtes avec donc ce groupe Mind Gamers, vous êtes ici pour la Melbourne Music Week. Parlez-nous un petit peu de cette rencontre avec des musiciens plutôt exceptionnels et un groupe ultra cosmopolite.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a souvent joué ensemble. Kirby, qui lui vient de Los Angeles, m'a souvent accompagné en concert. On a fait au moins trois tournées ensemble où il jouait avec moi. Et quand je suis venu jouer en Australie pour Parklife, le festival, Daniel faisait la batterie. Et puis, on est très vite devenus amis, on a tout de suite senti des points communs. Et puis aussi, quand on est ensemble, il y a une douceur. Le monde de la musique, ça peut être un monde aussi un peu agressif, presque un monde proche de la fête foraine. C'est le monde du spectacle en général, peut être très agressif. Et avec eux, c'est doux. Et j'adore ça. Et on est dans un monde feutré. Et en même temps, tout le monde est obsédé par la perfection, mais au service du fun. C'est-à-dire, c'est comme les musiciens. On fait pas du funk, mais je dirais que la philosophie est proche des musiciens de funk. C'est-à-dire, on essaie de travailler notre technique à fond, mais pas pour frimer, pas pour, pas pour faire une démonstration. C'est vraiment au service du plaisir de l'auditeur. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas.
Vous êtes pas au début de votre carrière, donc vous avez quand même pas mal d'expérience. Aujourd'hui, c'est un groupe où vous faites plaisir. C'est ça le but aussi.
Oui, voilà. Et puis surtout, pour moi, ça fait maintenant 15 ans que j'ai sorti mon premier disque. C'était L'Incroyable Vérité en 2001. J'en avais un peu marre d'être tout seul en studio. C'est pas ça, c'est que je vais refaire des albums tout seul, etc. Mais c'est vrai que je travaille tout le temps tout seul. J'ai mon studio à la maison. J'ai même pas à prendre ma voiture ou je croise personne dans le métro ou dans le train pour aller au studio. C'est-à-dire que je passe mes journées entièrement seul. Et cette solitude commençait à me peser. Et j'avais vraiment envie d'échanger. Et puis aussi, j'avais besoin d'apprendre parce que j'ai besoin, moi, de me ressourcer. J'ai envie d'écrire des nouvelles chansons qui vont dans de nouvelles directions. Et à un moment, sa propre personne, ça ne suffit pas pour se réinventer. Il faut se nourrir des autres. Et c'est ce que je fais. Alors, c'est pas non plus, je les vampirise pas. Je suis pas en train de les utiliser pour créer la suite. Mais tout ça, ça fait partie d'un nouveau style de vie où finalement, parfois je serai seul et parfois avec des amis. Comme on aime être dans la vie, finalement. Parfois on aime être seul. Parfois on aime être avec des amis. Je fais pareil pour la musique.
Vous avez fait un album qui était très politique à un moment dans le cas. C'était votre deuxième album, je crois, axé sur la politique. En France, il se passe pas mal de choses en ce moment. Ça vous donne envie d'avoir un petit coup de gueule encore politique, un politique numéro 2 ou pas vraiment? C'est ça peut-être qui vous emmène un petit peu en ce moment là.
Ah oui, alors c'est très marrant que tu me dis ça parce qu'effectivement, c'est complètement mon obsession du moment. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression d'étouffer dans cette société. Alors, société violente, évidemment, qui a des actes violents, mais aussi des pensées violentes et puis beaucoup d'interdictions. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de conduire trop vite, on n'a pas le droit de boire quand on veut, en France on n'a pas le droit de fumer des joints dans la rue, ou même on n'a pas le droit de fumer des joints du tout. Bon, moi j'ai arrêté de fumer des joints, je veux dire, mais c'est tout ce tas d'interdictions qui fait que j'en peux plus. Et aussi c'est dur de s'extraire de sa propre condition, c'est-à-dire une fois qu'on a choisi une direction, c'est très difficile d'en sortir et tout ça. J'en peux plus. Et c'est vrai que moi, j'aimerais qu'il y ait un nouveau mai 68. Alors, je sais pas si les Australiens connaissent mai 68, mais enfin, en 68, en France, il y a eu une sorte de révolution culturelle. Enfin, une révolution culturelle. Et je pense qu'on a vraiment besoin, à l'échelle de la planète, en tout cas, le monde occidental, qu'il y ait une révolution culturelle parce que là, on étouffe. Et c'est vrai que c'est ma nouvelle obsession et ça sera certainement le thème de mon prochain album.
Et non pas le sexe, alors. Le sexe, c'était celui d'avant.
Alors, voilà. Mais c'est vrai que, non, je suis toujours en quête de plaisir, toujours plus de plaisir, toujours, aller toujours plus loin dans la découverte, etc. Mais c'est vrai que mon obsession du moment, c'est la société dans laquelle on évolue, c'est vraiment mon obsession. Mais pas avec un regard d'adolescent, avec un regard de quelqu'un qui a maintenant 40 ans. Et qui se dit, ah merde, c'est quand même dommage. Avant, je supportais le monde parce que j'étais jeune. Mais maintenant que je suis adulte, je supporte plus parce que je suis censé avoir un certain contrôle, une certaine maniabilité de vie et que j'ai pas et je déteste ça.
Une question par rapport à ce qui là il y a un an il y avait les attentats à Paris. Vous êtes musicien, ça a touché plein d'endroits, mais notamment une salle comme le Bataclan. Vous le musicien qui est à cœur, forcément vous avez été touché. Et là un an après, forcément, même si vous étiez en Australie, il y a eu une pensée.
Ah oui, non, mais c'est terrible. C'est-à-dire que nous ça nous obsède. Alors c'est vrai que là c'est la commémoration des un an de la tuerie des Bataclan, du Bataclan. Mais en fait c'est pas parce que c'est l'anniversaire que j'y repense. C'est-à-dire, en tant que Français, j'ai pas arrêté d'y penser. J'y pense tout le temps. Et quand je vais dans un endroit comme dans une gare ou un resto bondé ou un concert, j'y pense. Et j'y pense tellement que je suis devenu alcoolique parce que j'arrive plus à aller dans les endroits plein de monde sans boire. C'est-à-dire, l'autre jour, j'étais au concert des Beach Boys, enfin de Brian Wilson, qui fêtait Smile. Et c'est pareil, j'étais obligé, j'y suis allé à quatre pattes, tellement j'ai dû boire pour pouvoir me déplacer. Et donc, il y a cette espèce de truc où, finalement, il y a déjà l'horreur de ce qui s'est passé, bon, qui est terrible. Et puis, en fait, il y a tous les effets secondaires. En fait, ça détruit, ça a tué des gens, ça a blessé des gens. Et puis aussi, ça a abîmé le cerveau de tous les autres. Et c'est vraiment une ambiance assez abjecte et de laquelle il faut absolument s'enfuir. Et c'est vrai que depuis qu'il y a eu ça, j'ai énormément voyagé. J'ai passé beaucoup de temps en Grèce, à Los Angeles, en Australie. Et ça me fait du bien d'être loin. Ça fait beaucoup de bien d'être loin. Après, il faut pas abandonner ceux qui sont là-bas. Mais moi, j'ai besoin de m'échapper, quoi. J'ai besoin de m'évader dans le voyage.
D'accord. Alors ces concerts, vous avez fait plusieurs concerts, notamment à Sydney. Là, il y a ce concert qui arrive à Melbourne. Vous la connaissez pas forcément encore cette scène, ce public australien, mais vous avez eu quelques échos quand même. Vous attendez quoi?
Bah alors, ce qu'il y a, c'est que le public australien, on se demande parce que c'est tellement loin de l'Europe. On les connaît pas, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas. Et moi, j'adorerais justement découvrir ce que veulent les Australiens, ce qu'ils attendent de la musique, quelle est leur vision de la musique, qu'est-ce qui marche sur eux, est-ce qu'ils veulent que ça fasse boum boum, que ça tabasse, que ça leur matraque la tête, ou est-ce que ils sont dans un mood de douceur en ce moment, tout ça, je sais pas. Donc, non. Voilà, c'est en jouant sur scène qu'on peut se rendre compte de ce qui marche, ce qui marche pas. Et ça, j'adore ça. Et après, c'est au bout de 10 ou 15 concerts où là, on les connaît un peu mieux. Et c'est enfin là qu'on peut faire le véritable ordre des chansons. Tiens, on va commencer par celle-là, on va finir par celle-là. Est-ce qu'il faut que je parle entre cette chanson et cette chanson-là? Ou est-ce qu'il faut que je me taise? Etc. Et c'est ça, en fait, le vrai plaisir du concert. Bon, il y a jouer de son instrument, s'exprimer et tout, c'est cool. Mais c'est surtout apprendre à connaître le public. C'est ça le kiff profond, finalement, de faire des concerts.
D'accord. Et j'ai une dernière question parce que nous on diffuse l'Eurovision sur SBS. L'aventure de l'Eurovision pour vous, c'était comment? Parce que ça fait un moment déjà, mais on se souvient de cette aventure. C'était comment de l'intérieur? C'est une question que je me pose depuis un bon moment, que j'avais envie de te poser depuis un bon moment.
Alors bon, déjà c'était en Serbie, donc c'était un pays qui avait connu la guerre et tout ça. Donc il y a cette sorte de magie noire, mais je veux dire, de beaux bâtiments détruits par les bombes, il y a encore plein de stigmates de la guerre là-bas, et il y a une ambiance hyper particulière parce que il y a encore beaucoup d'immeubles détruits, des routes défoncées, tout ça, donc il y a un côté catasismique, non, je sais pas comment dire ça, cataclysme en tout cas, et ça me plaisait beaucoup. Et aussi là-bas ils ont de l'herbe extrêmement puissante, et donc plus forte encore qu'en Californie, et donc j'étais complètement fou, ivre de weed, et je me baladais comme ça dans ces rues détruites, et j'ai l'impression de devenir fou, et je devenais fou en fait. Et c'était fun parce que, alors, je veux dire, l'organisation de l'Eurovision, c'est un truc qui est très proche des Jeux Olympiques, c'est hyper sérieux. Les mecs ont envie que rien dépasse, le show coûte des millions en production, etc. Donc les mecs, ils veulent que tout soit parfait. Et moi, justement, j'étais totalement imparfait dans un monde qui se veut parfait. Et donc c'était fun. Après, moi, je l'ai fait vraiment pour m'amuser. Il y avait pas, j'espérais pas gagner. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours compris en regardant les résultats de l'Eurovision qu'il fallait prendre les résultats à l'envers, c'est-à-dire souvent les premiers sont les moins bons et les derniers sont les meilleurs. Et donc voilà. Mais franchement, je me suis bien amusé. C'était cool et j'adorais arriver en petite voiture de golf. C'était sympa parce que il y a eu je sais pas combien de répétitions, donc j'étais toujours au volant de cette petite voiture de golf et j'adorais. Donc au début, je voulais créer un accident. Je voulais tomber de la scène avec la voiture, et puis là, ça soit annulé, qu'on puisse pas faire la chanson, créer. Et puis finalement, le public était trop proche de la scène, je risquais de blesser quelqu'un, donc j'ai pas pu faire ce que je voulais. Mais ce que je voulais faire, c'était saccager le truc, quoi. S'aborder le projet, mais j'ai même pas réussi à le faire.
Dommage, c'est dommage. Maintenant que je sais ça, c'est dommage.
Oui, c'est dommage. Ça aurait été beau, puis ça aurait été. Les gens le regarderaient encore, je veux dire.
Non. C'est clair. Merci Sébastien. En tout cas, public australien, y a pas de problème. Vous allez le voir.
Ok, bah formidable. J'ai hâte de voir ça.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Sébastien Tellier, divine cette chanson de l'Eurovision donc de 2008 et une interview qui est tout droit issue de nos archives de 2016. Sébastien Tellier, un chanteur tellement iconique et tellement aimé ici en Australie. D'ailleurs, pour les gens qui écoutent SBS Chill, c'est une de nos chansons qui passe le plus. Allez, courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
My Youth, bonjour et bienvenue dans le programme en français de SBS.
Bonjour Audrey, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui.
Mai, vous êtes l'entrepreneur qui a créé My Foodie Box, cette entreprise de kit repas, de boîte à lunch, et on pourrait dire ancrée dans votre enfance à vous en France. Racontez-moi un peu votre parcours, donc de la France jusqu'à l'Australie, jusqu'à My Foodie Box.
J'ai quitté la France en 2010. Et à la base, c'était pour faire mon semestre à l'étranger. Donc, j'avais des universités qui étaient en partenariat avec mon université à Paris. Et j'ai choisi l'Australie. Pourquoi l'Australie? Parce que c'était à l'autre bout du monde. Et je me suis dit, si j'allais faire un voyage pendant 6 mois, il fallait que ça en vaille la peine. Donc j'ai atterri à Brisbane à la base. Et j'ai fini mon semestre. Au bout d'un semestre, j'ai demandé à rester un autre semestre. Donc, j'ai fini par faire ma licence, donc terminer mon année en Australie. Et après ça, j'ai voyagé un petit peu et j'ai déménagé à Perth et j'ai rencontré mon mari et j'ai construit ma famille à Perth et j'ai construit mon entreprise à Perth et j'y suis restée. Et voilà, et maintenant, ça fait 15 ans.
Le processus pour fonder cette entreprise, My Foodie Box, comment ça s'est passé d'abord? Comment vous est venue l'idée?
Alors, j'étais dans un marché, en fait, à Perth. Et les marchés en Australie sont très différents de ce qu'on connaît en France. Et j'ai adoré ce marché en particulier parce que c'était un marché où ils vendaient plein de produits frais. Beaucoup de marchés en Australie vendent plus des produits, ce serait des bijoux ou des vêtements ou des objets qui sont un petit peu uniques. Et moi, je cherchais vraiment un marché comme en France où je pouvais acheter mes fruits, mes légumes, mon fromage, ma viande et tout ça. Et j'ai trouvé ce marché. Je me suis dit, mais c'est génial. Comment ça se fait qu'on n'a jamais fait ce marché avant? Et mon mari me disait, bah, c'est très simple. On n'a jamais le temps, en fait. Et c'est vrai, on n'a plus le temps aujourd'hui de faire les courses. Et quelques semaines après, j'ai vu un documentaire justement sur France 3 sur les repas en kit en France. Et c'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler en Australie. Et je me suis dit, ah, mais c'est ça l'idée. C'est ça en fait qu'il faut qu'on apporte en Australie pour que les Australiens puissent cuisiner, puissent avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir cuisiner un bon plat à la maison. Et c'est quelque chose qui était très important pour moi parce que je me suis vite rendu compte que en Australie, les gens étaient très axés sur ce qui était convenient. Donc, ce qui est au congélateur, généralement, bah, c'est ce qu'ils cuisinent le plus. Ou des repas déjà faits qu'ils ont juste à réchauffer, par exemple. Et je trouve ça très dommage parce que l'Australie a plein, 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 plein de produits frais qui sont excellents. C'est très, très grand comme pays. Donc, ça veut dire que, il y a une grande variété de fruits et de légumes aussi, à l'année. Parce que voilà, avec les différentes saisons, que ce soit au WA ou au New South Wales, Victoria ou South Australia, on a accès à énormément de produits frais. Donc c'est dommage de ne pas utiliser ça. Et la viande, c'est pareil aussi. On a une des meilleures viandes du monde. Et tout ce qu'on fait avec, c'est des barbecues en Australie. Donc ce serait bien en fait que les Australiens apprennent à faire d'autres choses aussi pour pouvoir agrandir leur répertoire, mais aussi pour éduquer leurs enfants.
Et donc, à la base, vous avez commencé et durant plusieurs années, donc, avec les kits, de repas. Et puis, comment ça fonctionne? Disons que je veux un kit de repas, My Foodie Box, où je peux vous trouver, comment ça fonctionne?
Alors, on a un site internet qui est myfoodiebox.com.au. Sur ce site-là, tous nos clients ont accès à une sélection de 30 différentes recettes qui changent toutes les semaines. Et à chaque fois, on a des recettes différentes et on essaye vraiment de mettre des recettes qui plaisent à différentes personnes. Donc, on va avoir des recettes qui sont plus adaptées pour des familles avec des jeunes enfants, par exemple. On va avoir des recettes qui sont adaptées à des couples. Donc, des recettes peut-être un petit peu plus compliquées avec qui sont un petit peu plus adventurous où il y a plus d'épices, on a un petit peu plus le temps de créer des choses différentes et d'expérimenter aussi. On a aussi des recettes gluten-free, on a des recettes vegan. Donc, on essaye vraiment de plaire à une grande communauté de personnes, mais le but vraiment, c'est de faire en sorte que les gens passent plus de temps en cuisine. Parce qu'en France, c'est quelque chose qui fait partie de notre culture, en fait. De cuisiner. Ça fait partie de notre culture de faire les courses, avec les enfants aussi. Ça fait partie de notre culture d'expérimenter et d'essayer des différents produits, des différents légumes. Et c'est vraiment ça que je voulais faire en Australie. Et donc, le produit donc on fait toujours des repas en kit pour les dîners. Mais la marque a évolué un petit peu, surtout parce que, en fait, donc, du coup, moi, j'ai trois enfants en bas âge, dont une qui a commencé la maternelle cette année. Ce qui m'a inspirée surtout pour ce nouveau produit-là, c'est le fait qu'en Australie, certaines écoles ont des cantines, mais les cantines australiennes ne sont pas du tout, mais alors pas du tout, ce qu'on appelle une cantine en France. Je pense que la plupart de nos auditeurs francophones qui verraient ce concert dans les cantines australiennes seront ch vraiment choqués par les options qu'on donne aux enfants. Il y a des choses comme des frites à volonté, pizza, des pies, des sausage rolls, beaucoup de fritures, beaucoup de matières grasses, très très peu de légumes, pas de produits laitiers, énormément de junk food, donc des barres de chocolat, des cookies, des muffins, qui sont même pas faits maison en plus. C'est pas des produits, c'est vraiment des produits qu'on achète vraiment au supermarché à très très bas coût. Oui, il y a du coca, oui, il y a des soft drinks, il y a des slushies, et ça me rend folle en fait de voir qu'une école puisse fournir autant de junk food à des enfants qui sont en maternelle ou en primaire. Je pense qu'on ne se rend pas compte, en fait, de l'effet que ça a sur nos enfants.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Paris, 48 degrés nord, 2 degrés est. 5h50, vous quittez votre appartement. Il fait encore nuit. Les néons claquent sur vos rétines. Vos tympans peinent à s'accommoder au changement de pression. Une douleur à l'oreille vous signale la fin du parcours. Soleil couchant, votre avion amorce sa descente sur l'état du Victoria. 17h50, 37 degrés sud, 144 degrés est, Melbourne.
Une chanson qui doit parler à pas mal de personnes, Paris-Melbourne. Donc cette chanson de Sophie Morin dans notre sélection pour ce mois d'avril. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.au/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.